Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons faire deux lectures. Oui, la première dans Matthieu chapitre 17. Vous allez bien, mes frères et sœurs? Matthieu chapitre 17, verset 21. Les apôtres ont été confrontés à un sujet difficile, n'ont pas pu amener la bénédiction sur cet homme qui était tourmenté. Jésus va délivrer cet homme. Et bien sûr, les disciples, au verset 19, vont s'approcher de Jésus pour lui dire, mais comment ça se fait? Matthieu chapitre 17, verset 19. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, vous savez qu'on peut se retrouver seul avec le Seigneur, hein, en particulier. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Le Seigneur nous rappelle ce soir cette parole, que rien ne pourrait nous être impossible. Mais il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des moments où nous n'avons pas jeûné, où nous n'avons pas prié, et ça empêche Dieu d'agir. La deuxième lecture, c'est dans la première épître de Pierre, où à la fin du verset 7, au chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, verset 7, la fin, l'apôtre rappelle quelque chose qui parcourt l'Écriture, c'est dit d'une façon ou d'une autre, lisons-le s'il vous plaît, 1 Pierre chapitre 3, la fin du verset 7, nous l'avons lu tout à l'heure pour introduire le moment de prière que nous avons eu, il y a des choses qui doivent être comprises, qui doivent être vécues, qui doivent être faites, et c'est en ce sens-là qu'après toute une exhortation qu'on va voir, le Seigneur dit au travers de l'apôtre, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. On va lire, bien sûr, ce qu'il faut faire. Vous savez, nous avons un Dieu puissant, tout puissant. Il s'appelle El Shaddai, le tout puissant. Lorsque Isaïe prophétise la venue de Jésus, Jésus, c'est Dieu qui s'est dépouillé de sa gloire. Mais Jésus, c'était aussi un homme semblable à nous, qui a été fait semblable à nous et qui a amené la victoire à cause de son obéissance. Et n'oubliez jamais que le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui obéissent. C'est écrit où ça? Acte 5. Hey, tu fais des progrès, Michael. Acte 5, 32. Le Saint-Esprit, enfin, le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Est-ce que nous voulons marcher par l'Esprit? Est-ce que nous voulons véritablement faire les expériences que Dieu veut que nous fassions? Est-ce que vous croyez que Dieu a préparé des œuvres à l'avance? Est-ce que vous croyez qu'il y a des plans qui sont préparés pour chacun? Pour chaque couple, chaque famille? Bien sûr, il y a des plans, il y a des projets, il y a des expériences. Alors des fois, on peut vouloir faire des expériences pour faire des expériences, c'est pas bien. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des expériences que Dieu veut que nous fassions. Et moi, il y a un verset qui me taraude de l'esprit depuis longtemps, c'est quand Samuel dit à Saül, la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Vous connaissez ce verset? Ça fait froid dans le dos. La vie de l'esprit, c'est le plan de Dieu. La vie de l'esprit, c'est la volonté de Dieu. Et nous devons croire ce que Dieu a dit. Vous vous rappelez la parole que le Satan a utilisée pour parler à Ève? Dieu a-t-il réellement dit? Ce que Dieu a dit, il l'a dit. Et nous devons le prendre avec beaucoup de sérieux. Vous savez, la vie de l'esprit, c'est une grâce. C'est une grâce extraordinaire. Est-ce que vous vous rendez compte ce qui se passerait dans la ville de Toulouse si nous qui sommes ici ce soir, nous étions continuellement remplis du Saint-Esprit? Imaginez-vous ce que nous vivrions, ce qui se passerait, et pourtant c'est à notre portée. La vie de l'esprit en plus c'est une bénédiction parce que c'est pas une vie d'agitation. La vie de l'esprit c'est une vie de quoi? De paix. Oui ou non? C'est quoi la vie de l'esprit? C'est une vie de quiétude, de confiance, de paix, de joie, d'amour, etc., de simplicité. Et Dieu le veut, c'est ça que Dieu veut. On a l'impression que ce n'est pas possible dans ce monde difficile, enténébré, apostasié, dans ce monde complètement voué à la puissance du diable. Et pourtant, nous pouvons vivre dans le repos. Alléluia. Nous devrions vivre dans le repos. Et il faut que nous comprenions que s'il y a une chose que Dieu veut et que Dieu fera de toute façon, il le fera. Il l'a dit au travers du prophète Zacharie que Dieu avait commencé une œuvre et qu'il l'achèverait. Il a dit ça? Oui. Les mains de Zorobabel ont commencé cette maison et ses mains l'achèveront. Le grand Zorobabel à nous, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, je bâtirai mon église et vous ne vous imaginez pas un instant que quand Jésus reviendra chercher son peuple, l'église ne sera construite qu'à moitié. Mais il faut qu'il trouve des hommes et des femmes par qui il puisse faire son œuvre, des hommes qui vivent dans la paix. Ce matin, je méditais sur la crainte. La crainte, ça vient de qui? Est-ce que ça vient de Dieu, la crainte? Ça vient d'où, la crainte?
Ça veut dire de la chair? Non, c'est ça que ça veut dire?
Oui, la crainte, ça vient ou de la chair ou du diable. Mais ça ne vient pas de Dieu. C'est la paix qui vient de Dieu. Et que de fois nous avons eu des craintes. Parce que la vie de l'esprit ne pouvait pas agir comme Dieu l'aurait voulu. Alors, nous, ce soir, nous sommes là, nous voulons que l'Église soit l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et nous voulons bien sûr que nos prières soient exaucées. Vous aimeriez, quand vous vous retrouverez devant Dieu, que Dieu vous dise, eh bien, tu sais, tu as prié pendant 30 ans, ça ne servait à rien. Est-ce que ça peut se présenter, cette affaire? Est-ce que c'est écrit dans la Bible, par exemple, où Dieu dit, mais quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas? Est-ce que c'est écrit plusieurs fois? Ah oui, c'est écrit. Alors, nous devons être sérieux, nous devons être courageux, et le mieux, je l'ai déjà dit deux fois, en un an ou deux. Mais hier, en priant, je priais pour ces moments, et je vais vous dire quelque chose, on va le faire, on va le commencer. Je vous l'ai déjà demandé, mais j'aimerais que, pour comprendre cette partie de ce verset 7 que nous avons lu, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à nos prières, il faut que nous comprenions tout ce qui précède. Et je vous encourage vraiment à lire à partir de 1 Pierre chapitre 1 verset 12. Vous y êtes? On va le lire. Est-ce que vous voulez que vos prières soient exaucées, mes frères et sœurs? Vous vous rendez compte? Ça serait terrible qu'on passe devant. D'ailleurs, pourquoi beaucoup de gens rétrogradent? Pourquoi beaucoup de gens ne prient plus? Pourquoi, d'après vous? Comment? Ben voilà. Pourquoi les gens rétrogradent? Les gens qui ont été guéris, il y a des gens qui ont été guéris, délivrés du cancer, ils ont retrouvé tout, ils ont été bénis, c'est pas possible comment ils ont été bénis. Un an après, ils ont rétrogradé. 6 mois après, ils ont rétrogradé. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi? Mais parce qu'ils sont retombés. Ils sont retombés pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas veillé. Parce qu'il y en a qui, moi, il y en a qui me disent, oh, mais si c'est ça, aller à l'église, j'y vais plus, Dieu n'exauce pas mes prières. Mais plutôt que de se dire, Dieu n'exauce pas mes prières, il vaudrait mieux avoir l'intelligence de dire, pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières? Alors, on va lire, mais je vous demande de le faire, parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire ce soir, mais on va peut-être y revenir, parce que ça fait deux fois, mais je ne dois pas me traumatiser, parce qu'on y revient pour la troisième fois dans un an ou deux, dans 1 Pierre chapitre 1er, au verset 13. Les 12 premiers versets nous parlent de notre position, ce que nous sommes en Christ. Et à partir du verset 13, il nous est demandé certaines choses. Alors on va les voir. Vous avez votre Bible? Alors, monsieur Delon, hein? Non, on ne vous pardonne pas. 1 Pierre chapitre 1er, verset 13. Regardez bien, et je vous encourage à surligner, à noter, à utiliser votre concordance et à dire, tiens, mais qu'est-ce que Dieu me demande? Est-ce que ça vous arrive de dire au Seigneur, mais parle-moi, montre-moi? Est-ce que vous faites partie de ces gens qui... Oui. Alors, regardez. Saignez les reins de votre entendement. Voilà le premier ordre. Vous aimez les ordres? Vous aimez les ordres? Vous devriez dire oui. Si ça vient de Dieu, c'est une bénédiction. Bien sûr, si ça vient de quelqu'un qui est méchant, un ordre injuste, mais les ordres de Dieu, qu'est-ce que vous pensez des ordres de Dieu? Soyons cohérents. Tous les ordres de Dieu sont intelligents. Tous. Quoi que ce soit que Dieu pourra vous demander, ça a du sens. Ça vous amènera à faire des progrès. Ça vous amènera à la sagesse. Ça vous amènera à la paix. Tous les ordres de Dieu sont intelligents. N'en doutez jamais. C'est David qui dit, mais tes ordonnances réjouissent mon cœur. On devrait se dire, mais Seigneur, si tu me demandes de ceindre les reins de mon entendement, c'est l'intelligence. Dimanche, M. Fabio qui a prêché, nous a rappelé l'importance de travailler à comprendre les dimensions de l'amour de Dieu. Si vous étiez là dimanche matin, vous vous en souvenez. Comme quoi, la foi n'est pas indépendante de la possibilité de comprendre. Saignez les reins de votre entendement. La première exhortation, voilà, il faut que mes pensées soient cadrées. Vous avez vu comment ça peut partir vite dans le domaine des pensées? C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous avez vu comment ça peut partir dans tous les sens? Même dans la prière. C'est pas vrai? Bon, le diable, je pense qu'il met son grain de sel. Mais vous avez vu comment on peut vite partir dans n'importe quel sens? Et le premier conseil que Dieu nous adresse, n'oublie pas le but, afin que rien ne vienne faire obstacle à nos prières, c'est que nous contrôlions nos pensées. La première des armes que Paul conseille aux chrétiens d'Éphèse, il dit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Que notre marche de suite soit cadrée par la vérité. Vous aimez la vérité? Le matin, se lever, voilà, la crainte, tiens, je me lève, je me réveille dans la crainte. Est-ce que ça peut arriver de se réveiller, d'avoir des craintes? Allez, même le plus avancé dans la foi, est-ce qu'il peut se réveiller avec des craintes? Mais bien sûr, nous ne rêvons pas. C'est une exhortation qui revient continuellement dans la Bible de ne pas craindre. Voilà. Quand il est dit « saignez les reins de votre entendement », c'est ça, c'est-à-dire « je m'impose de vivre » ce que Dieu me demande. Et c'est tout ce qu'on va voir. La crainte. D'ailleurs, il en est parlé un petit peu plus loin, je crois. Hein? Au verset 6 du chapitre 3, il est parlé aux sœurs. Dieu parle aux sœurs, et il parle de Sarah, qui obéissait à son mari. C'est bien, il y en a quand même. Hein? Abraham, 1 Pierre 3, verset 7. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Comment vous l'appelez-vous, votre mari? Hein? Solange, comment vous l'appelez, votre mari, depuis que vous êtes mariée? Hein? Elle l'appelait son Seigneur avec un petit S, attention. Hein? C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Voilà ce que Dieu demande, que nous ne nous laissions pas troubler par aucune crainte. Voilà, ça fait partie des instructions. Mais, voyez, pour mettre en pratique la première exhortation, saignez les reins de votre entendement, je ne veux pas craindre. En préparant cette exhortation, je pensais à la femme vertueuse. Qu'est-ce qu'il est dit de la femme vertueuse? C'est où? C'est écrit où? Je crois que chapitre 31, verset 20 et quelques. Il est dit que la femme vertueuse, elle se rit de l'avenir. C'est pas beau, ça? C'est pas magnifique, hein? Vous l'aviez déjà lu, ça? La femme vertueuse, elle se rit de l'avenir parce qu'elle sait ce que Dieu dit. Elle sait que le lendemain aura soin de lui-même. Elle le sait. C'est pas parce qu'elle le sait pas, parce qu'elle espère. Non, elle le sait. Dieu l'a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Non, c'est Dieu qui l'a dit. On n'écoute pas Satan, qui essaie de nous faire croire que parce que si, parce que là, parce que j'ai perdu mon foyer, parce que j'ai perdu mon travail. Dieu a dit que ceux qui cherchaient d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout leur serait donné. Et saignez les reins de votre entendement, c'est ça. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens, il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Aux Corinthiens, il dit, amenez toute pensée captive à l'obéissance. C'est à nous de contrôler nos pensées. C'est pas à nos pensées de nous promener et de nous amener là où elles veulent. C'est à nous de contrôler nos pensées. C'est écrit, amenez vos pensées captives à l'obéissance. C'est mardi dernier qu'on a partagé ce texte dans les Philippiens, où il dit, si vous voulez que Dieu soit avec vous, eh bien au reste, frère, que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. On doit contrôler nos pensées. On doit les contrôler. C'est à nous de dire non, je refuse. C'est pour ça que la méditation, c'est le meilleur moyen pour méditer, de lire sa Bible, de vous réveiller le matin, de prendre un verset. Voyez, si vous lisez pendant 6 mois, tous les matins, Proverbe 31, la femme vertueuse, elle se rit de l'avenir, vous allez voir que le matin, vous dites, ben, l'avenir, moi, j'en ai pas peur. Parce que moi, je veux m'identifier à ces femmes de foi qui n'avaient pas de crainte. N'ayez pas peur du lendemain. Ne craignez pas. La crainte, elle ne vient pas de Dieu. Quand vous craignez, dites, non, je refuse. Il ne faut pas vivre bêtement. Mais Seigneur, je te fais confiance. C'est ça. Saignez les reins de votre entendement. Les chrétiens, ils sont tout le temps dans la crainte, dans la peur, dans le doute. Alors, c'est pas pour ça qu'ils vont aller en enfer. Ils sont sauvés. Mais ils se privent de la grâce de Dieu. Ils se privent de cette faveur. Ils se privent de cette bénédiction. Une église, elle devrait être, toutes les églises, devraient être remplies de gens qui surmontent le mal par le bien. Vous savez, il y a un verset dans les Proverbes qui dit « L'homme est tel que sont les pensées de son âme. » C'est écrit, ça, Proverbe 23, je crois. Vérifiez-le, mais c'est pas sûr. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. C'est pour ça que nous devons veiller à ce que nous pensons. C'est le premier conseil. Oui, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Saignez les reins de votre entendement. Deuxième conseil, soyez... Qu'est-ce qu'il est dit? Vous m'aidez pas beaucoup, hein? Soyez sobre. Bon, sobre, qu'est-ce que ça veut dire? Soyez sobre, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, soyez sobre? Qu'il ne faut pas boire du vin? C'est ça que ça veut dire? Oui, oui aussi. Oui, ça veut dire. Mais en parole, la sobriété en parole, c'est écrit, soyez sobre en toutes choses. C'est écrit, je ne sais plus où c'est, mais c'est écrit. Soyez sobre dans les épîtres, soyez sobre en toutes choses. Et je pense que c'est un conseil qu'on devrait s'appliquer. Et le relire régulièrement. Troisième conseil, ayez une entière espérance dans vos prières. C'est ça qui est écrit? Qu'est-ce que c'est qui est écrit? Ayez entière espérance dans vos années de conversion, non? Non. Ayez entière espérance dans la grâce. Mes frères et sœurs, croyez toujours dans la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est qui a fait que David s'en est sorti alors qu'il méritait la mort? Il croyait dans la grâce de Dieu. Vous serez heureux si vous avez, pas une petite espérance, une entière espérance dans la grâce. Croyez à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas une blague. La grâce de Dieu, c'est extraordinaire. De pouvoir vous approcher tous les jours du trône de la grâce. Seigneur, pardonne-moi, j'ai besoin de pardon. Ça vous arrive pas d'avoir besoin de pardon? Non? Vous n'avez pas besoin des fois d'avoir du pardon? Seigneur, c'est ça l'espérance. Il y a des gens qui ne croient plus au pardon. Non, j'en ai marre, je ne prie plus, j'en peux plus, j'ai dépassé les limites. Où tu l'as vu ça? Il y a des gens qui dépassent les limites. Parce qu'ils jouent dans l'hypocrisie, dans la désobéissance. Mais quand on est vrai, Seigneur, je veux avoir une entière espérance. Quand le verbe entier, le mot entier, nous parle vraiment de cette vie de l'esprit. Entier, c'est plein. Je veux croire dans l'espérance. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. La grâce, on en a besoin, croyez-moi. Et on a besoin de la grâce, et on a besoin de s'y installer dans la grâce. Pas juste le temps d'une réunion, mais de s'installer continuellement dans la grâce de Dieu. À méditer, bien sûr. On ne va pas tout lire. Mais, voyez, comme des enfants obéissants. L'obéissance revient souvent dans l'exaucement des prières. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Là aussi, si on aime le monde, si on aime le monde, est-ce qu'on peut aimer Dieu et aimer le monde? Est-ce que c'est écrit dans les rois, dans l'Ancien Testament, ils aimaient l'Éternel et en même temps ils aimaient les Astartés? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Oui, c'est écrit. Ça fait mal au cœur. Ils priaient Dieu et en même temps ils priaient les idoles. Ils aimaient l'Éternel et en même temps ils aimaient les idoles. Ça ne va pas, ça. Il faut se positionner. Il y a des chrétiens, ils sont comme ça, ils aiment Dieu. Personne ne pourrait dire le contraire. Et pourtant, ils aiment le monde en même temps. Et ça, ça crée un dilemme, ça crée de la tiédeur, ça crée l'apostasie dans les églises. Beaucoup de chrétiens sont devenus des pierres d'achoppement, ils aiment Dieu. Et je vous dis, personne ne pourrait les contredire. Mais en même temps, ils aiment le monde. Mais le problème, c'est que celui qui aime le monde, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il est dit? C'est un autre verset, ça. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Par contre, il est dit, dans Jacques, on va le lire, tiens. On va le lire. Le verset que cite M. Grondin. Juste un peu avant. C'est important de lire ces choses. Si on veut que nos prières soient exaucées, là c'est l'adultère. L'adultère spirituel. Jacques chapitre 4, vous voyez, c'est presque la même chose. Il parle de l'adultère. L'adultère, est-ce que c'est terrible l'adultère dans un couple? Est-ce que c'est terrible? Ben oui. Mais l'adultère spirituel, c'est que j'aime Dieu. Et en même temps, j'aime le monde. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Mais est-ce que Dieu peut nous délivrer de l'amour du monde? Alors je ne parle pas de l'amour du monde, attention. Hein. Si vous aimez le ski, c'est pas aimer le monde, ça. Si une fois de temps en temps vous allez faire du ski, c'est pas aimer le monde. Bien sûr, si vous allez tous les dimanches matin faire du ski, je pense que là, il y a un problème. Mais celui qui se rend ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors il ne faut pas s'étonner que nos prières ne soient pas exaucées. Et le diable, il le sait. Vous comprenez bien que le diable, lui, il ne va pas empêcher les gens de prier. Il s'en fiche qu'on prie. Il va empêcher que les gens soient en communion avec Dieu. Parce que quand on est en communion avec Dieu, nos prières sont exaucées. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, ce que l'on lit là, moi je nous encourage à prendre, s'il faut, un mois à méditer ces chapitres et à dire, Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux, est-ce que David l'a fait? Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur? Est-ce qu'il a fait cette prière, David? Oui, c'était une prière qu'il a fait le jour où il a été interpellé par Dieu. Et il a dit, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Il en avait marre de vivre dans l'hypocrisie. Et Dieu lui a parlé. Et Dieu l'a restauré. Et si chacun d'entre nous, nous disons, Seigneur, écoute, moi je veux que la vérité. J'en ai assez d'aller à l'église, d'être un hypocrite. Il y a des choses que je ne contrôle pas. On les a prêchées, je ne les ai pas comprises. Mais vous croyez que même si le pasteur ne dit pas les choses comme il faut, même s'il les dit d'une manière maladroite, vous croyez que le Saint-Esprit peut vous éclairer? Il dit, mais Seigneur, il faut que je sache où j'en suis. J'aime le monde. Il y a des chrétiens, je vous assure, ils ont besoin d'une délivrance. Est-ce que Dieu peut nous délivrer? Est-ce que Dieu peut nous délivrer? Est-ce qu'on veut vraiment être délivré? Est-ce que Dieu peut délivrer quelqu'un de n'importe quoi? Est-ce qu'on le chante, tu es le Dieu de la délivrance? Oui. Seigneur, délivre-moi de ça, ça ne va pas. Délivre-moi, ça ne va pas. Quand vous étiez dans l'ignorance, verset 15, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans... » Le dimanche matin, comment vous avez dans vos Bibles? Vous ne m'aidez pas beaucoup, hein? Les stagiaires, vous pourriez m'aider un peu quand même. Qu'est-ce qui est écrit? Puisque celui qui vous appelait saint, soyez saint dans toute votre conduite. C'est pour ça que c'est important. C'est important. La maison, le travail, d'aimer toutes ces choses, de les réaliser. La sainteté, c'est pas à l'église. La sainteté, c'est le jour et c'est la nuit. Tous les jours et toutes les nuits. Verset 17. Si vous invoquez votre Père, comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Le temps qui me reste à vivre. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la haine du mal. Voilà. Eh bien, c'est un commandement. Verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » La vérité, il ne faut pas la croire. Hein. Ça ne sert à rien de croire la vérité. Il faut obéir à la vérité. Tout à l'heure, avec les stagiaires, on parlait d'un verset. Moi, qui m'a beaucoup, beaucoup interpellé, c'est dans le livre des Actes. Un verset qui m'a beaucoup parlé et m'a aidé à comprendre tout ce qu'on partage d'ailleurs. Dans le livre des Actes, au chapitre 6, il est parlé d'une catégorie de gens, en plus, qui ont été extrêmement méchants envers Jésus. quand vous regardez ce que les comment les sacrificateurs ont traité Jésus, et là, dans le livre des Actes, l'Église est en plein réveil, acte 6, verset 7. C'est un verset extraordinaire qui nous enseigne ce qu'est vraiment la foi. Il y a une définition extraordinaire. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Regardez la suite. Et une grande foule de sacrificateurs, vous savez ces gens qui avaient crié « Crucifie-le, crucifie-le », ils sont là. En plus, qu'est-ce qu'il est dit? Une grande foule de sacrificateurs, il n'est pas dit qu'ils avaient la foi. Il est dit qu'ils obéissaient à la foi. Et croyez-moi, ça c'est une clé. Par rapport à ce qu'on est en train de vivre. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La foi, c'est pas croire. Bien sûr que c'est croire. Quelqu'un va me dire, oh, il dit des choses qui sont pas vraies. Mais frères et sœurs, la vraie foi, c'est une foi d'obéissance. Dieu l'a dit, je le fais. En obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. C'est important de s'aimer les uns les autres. Oui ou non? Aimez-vous ardemment. Est-ce que c'est facile d'aimer? Est-ce que c'est toujours facile d'aimer? Non. Est-ce qu'on peut demander, Seigneur, donne-moi d'aimer? Est-ce que Dieu peut vous donner de l'amour? Est-ce que Dieu peut vous remplir de son amour? Est-ce que c'est une prière qu'on peut faire? Seigneur, je te demande, donne-moi de l'amour. Tu vois les gens avec qui je travaille, ils m'énervent. Moi, je l'ai eu fait ça quand je travaillais, pas 20 heures. Pas 20 heures, heureusement, ce serait grave. Mais quand j'étais sur des chantiers, vous savez, vous travaillez avec des gens grossiers, bêtes, méchants. C'est pas vrai, ça. Il y a des gens, vous travaillez avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Franchement, combien ils sont stupides, souvent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Seigneur, donne-moi de l'amour pour ces gens. Je veux les aimer. Je veux les aimer. Est-ce que Dieu va vous donner de l'amour? Ben oui. Si Dieu nous demande quelque chose, on l'a entendu dimanche matin. Ça nous a été dit. Si Dieu nous demande quelque chose, on peut le faire. Et vous comprenez bien que si le diable peut nous amener à haïr quelqu'un, il ne va pas se gêner. Parce que si on ne pardonne pas, on peut prier tant qu'on voudra, Dieu ne nous exaucera pas. Moi j'ai entendu des chrétiens. Moi j'ai la haine. J'ai la haine contre lui, contre mon gendre. Il a fait du mal à ma fille. Je le supporte pas. Eh bien oui, mais la personne, il vaut mieux qu'elle arrête de prier. Il faut demander du pardon. Eh oui. Ce sont des choses sérieuses, mes frères et sœurs. Aimez-vous ardemment. Chapitre 2. Rejetant donc toute méchanceté. Alors, je vous conseille de prendre le dictionnaire. Moi, je le fais, même si je suis pasteur. Et de regarder vraiment ce qu'est la méchanceté. Toute ruse. C'est quoi la ruse? Tiens donc. La dissimulation, l'envie, la médisance. Ces choses-là, il faut les rejeter. Vous lirez dans le dictionnaire ce que sont ces mots. C'est important, mes frères et sœurs. Vous voulez que vos prières soient exaucées. C'est quoi la médisance? C'est quoi la médisance? Qu'est-ce que quelqu'un peut donner la différence entre la médisance et la calomnie? Voilà, c'est exactement ça. La calomnie, c'est faux. C'est-à-dire, je dis, tu sais, tel homme, il a fait ça, et c'est pas vrai. Ça, c'est la calomnie. C'est grave, parce qu'on ment pour salir quelqu'un. Tandis que la médisance, on dit quelque chose, c'est vrai. Mais on le dit quand même, ça va salir la personne. Et il vaut mieux éviter. C'est vrai. Tu sais, tel frère, il a menti. C'est vrai, il a menti vraiment. Est-ce que c'est utile? Alors, il y a des fois, il y a des situations où on peut parler, non plus. N'exagérons pas non plus. Mais il y a des choses, on peut les éviter. Alors évitons-les. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses, on peut le dire. On peut dire, tiens, tu sais, il s'est passé ça, ça et ça. C'est pas dans le but de salir la personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que Dieu nous a donné beaucoup de bon sens. Voilà, on peut dire, tiens, tu sais, tel frère, M. Dupont, il a fait ça. Tu sais, franchement, moi, je suis quand même peiné. C'est pas bien. Mais c'est pas dans le but de le salir. Vous voyez ce que je veux dire? On en parle. Sinon, on ne parle plus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut bien faire la différence entre... Parler d'une situation, même si elle n'est pas bien, ce n'est pas dans le but de nuire à la personne, mais la médisance, tu sais, il a fait ça. Il a fait ça. Ça ne m'étonne pas. Non, la médisance. La médisance fait que nos prières ne seront pas exaucées. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Dimanche, je ne sais pas si vous avez écouté les dons spirituels. Tous les dons spirituels, tous, nous encourager à nous approcher du Seigneur. Aimez vous approcher de Dieu. La majorité de tous les problèmes seront réglés avec cette affaire-là. Verset 5. Comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Édifiez-vous. C'est bien d'être édifié. Est-ce que mon exhortation vous édifie? Oui. Mais est-ce que c'est bien de s'édifier soi-même? Hein? Édifiez-vous. Est-ce qu'on peut s'édifier soi-même? Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit « Édifiez-vous vous-même » Comment? C'est écrit où? C'est bien, dans Jude. Édifiez-vous vous-même. Voilà quelque chose qui plaît à Dieu. Vous savez, quand vous prenez votre Bible, ben, si vous faites ce que je vous recommande à faire, tiens, je vais prendre la première épître de Pierre et toutes les exhortations qui sont là, je vais m'y appliquer. C'est ça, s'édifier soi-même. Je vais le faire. Et les gens, ils lisent pour lire, mais ils lisent parce qu'on leur dit de lire. C'est pas ça. Lire, c'est apprendre à méditer. Édifiez-vous. Si on continue, voyez, verset 11 du chapitre 2. « Je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Moi, je plains les gens qui vont sur Internet. Il y a tellement de choses qui doivent faire la guerre. Oui ou non? Moi, je les plains, les gens qui se font piéger. Parce que je ne sais pas comment ça marche, mais ça doit être vite fait, une fenêtre, une autre, clac, clac. Abstenez-vous. Abstenez-vous de ces choses qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite à l'église. Est-ce que c'est important d'avoir un bon témoignage à l'église? Est-ce que vous vous appliquez à avoir un bon témoignage à l'église? Vous ne répondez pas. Est-ce que vous appliquez à avoir un bon témoignage à l'extérieur? J'espère que vous êtes sincère. Parce que je crois qu'un chrétien, il doit être pareil à l'église qu'à l'extérieur. Et si vous faites partie de cette catégorie de gens hypocrites, à l'église, alléluia, merci Seigneur, amen, et à la maison, ça, c'est d'autres lettres qu'ils ont utilisées, je vous plains. Parce que je peux vous dire qu'il y a un problème au niveau de votre conversion, certainement. On a le plaisir de tout faire pour rendre un bon témoignage partout où on est. Moi, je le sais, mais les gens me le disent. Mais monsieur Gros, à l'église, je fais gaffe et je fais attention à tout. Mais dehors, je suis capable de dire des gros mots. Et bon, les gens me le disent. Ils me disent, bon, ils me font confiance, ils savent que je ne les juge pas. Mais ça vous montre bien qu'il y en a qui n'ont rien compris à l'évangile. Est-ce qu'il faut être grossier, pas grossier à l'église? Non, mais franchement, mais c'est grave ce que je vous dis. C'est grave. Justement, je pense à un pasteur qui a été dans une église et il me disait que dans l'église, la moitié des chrétiens étaient grossiers. Ça vous donne une idée de l'exaucement des prières. Alors, on continue. Verset 13. « Soyez soumis. » Oui, vous avez bien lu. « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. » Alors, est-ce que vous êtes soumis? Est-ce que nous sommes soumis sur l'autoroute à 3h du matin quand il n'y a plus personne? Est-ce que vous êtes soumis? Vous dites non, il n'y a pas les poulets, je fais ce que je veux. J'ai acheté le coyote. Il y en a qui, des chrétiens qui me disent, monsieur Gros, si vous voulez, vous achetez le coyote. Je dis, j'ai pas besoin du coyote. Vous savez ce que c'est le coyote, le tirana? Je dis, j'en ai pas besoin. J'ai pas peur des gendarmes. Je crois qu'un chrétien, il n'a pas peur des gendarmes. Oui, est-ce qu'il a peur des gendarmes, un chrétien? Ben non. Il n'a pas peur des gendarmes. Mais vous savez, mes frères et sœurs, moi, ça me fait mal au cœur quand je vois des chrétiens qui me conseillent de m'offrir le coyote. J'ai dit, mais non, je n'ai pas besoin. Parce que je respecte le code de la route. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toutes les autorités. À toutes les autorités. Mes frères et sœurs, le diable, s'il peut nous amener à être insoumis, laissez-moi vous dire qu'il le fera. Verset 17. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Honorez le roi. Bon, il n'y a pas de roi en France, mais il y a un président. Comment faire pour honorer un président aussi impie que le nôtre? Parce qu'on n'a pas un président pieux, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut l'honorer? En priant. Seigneur, je te prie pour le président de la République. Voilà. Je ne sais pas si vous le faites, mais il est quand même écrit, qu'avant toute chose, il faut prier pour ceux qui nous gouvernent. C'est écrit ça? C'est écrit dans la Bible? Eh bien oui. Seigneur, moi je prie. Je peux vous assurer que ce gouvernement, il ne me convient pas du tout. Hein. Mais du tout. Mais tous les jours, je prie pour eux. Tous les jours, Seigneur, bénis M. Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, bénis M. Le Drian, parce que c'est le ministre de la Défense. Moi, je pense que c'est important qu'on prie pour le ministre de la Défense. C'est ça, Honoré. Moi, je ne supporte pas la politique actuelle. Je ne la supporte pas. Vraiment. Mais je prie pour ceux qui nous gouvernent. Parce que Dieu nous demande de le faire. Voilà. Et Honoré, si voilà, je te prie pour eux. Je te prie vraiment pour eux. Je l'assure. C'est grave ce qui se passe. Mais on peut prier pour eux. Verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Vous voyez, même si votre pasteur qui vous forme il est difficile, eh bien ça ne fait rien. Il faut aussi se soumettre, vous entendez? Ouais. Chapitre 3. Femme, que chacune de vous soit soumise à son mari. Bon. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Honorez-la. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je n'ai pas tout cité. Mais mes frères et sœurs, on va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. C'est une continuation. Regardez bien. 1 Pierre chapitre 3 verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. Ce qu'on partage, il faut qu'on soit tous d'accord. La même pensée, ça ne veut pas dire mais Monsieur Gouil aime le bleu, alors il faut que tous on aime le bleu. Il faut qu'on aime tous la même couleur. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Bien sûr que non. Il n'est pas dit d'avoir la même personnalité. C'est ça, on a tous notre personnalité. Soyez animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, c'est pareil, des sentiments spirituels, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'injure pour l'injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Il y a des chrétiens qui maudissent. Moi, je ne comprends pas. Si vous maudissez, je vais vous dire, ne priez plus à part de demander pardon. C'est la seule prière que Dieu pourra exaucer. Toutes les autres, ça sera une abomination. C'est écrit dans les Proverbes 28, celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Proverbes 28. Bénissez, si quelqu'un en effet veut aimer la vie. Ça aussi c'est important quand même. Il y a des gens qui détestent la vie. La vie, elle n'est pas facile. Est-ce qu'elle est facile, la vie? Non, elle n'est pas facile. La vie, moi, je trouve qu'elle est dure. Hein. Elle est compliquée. Mais on peut l'aimer, cette vie que Dieu nous a donnée. Et voilà pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas la vie. Parce qu'ils sont en vrac avec tout ce qu'on vient de lire. Si quelqu'un veut aimer la vie, et voir des jours heureux, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème. Ça veut dire que dans les problèmes, vous voyez, on n'aura pas de crainte. Qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Et le résultat, c'est le même, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Voyez, mes frères et sœurs, c'est 2 chapitres et demi. C'est 3 chapitres. Moi, je vous encourage, je nous encourage à les méditer. Parce que c'est imparable. Si nous vivons ce que nous avons partagé succinctement, si nous le vivons, rien ne fera obstacle à nos prières. Et quand vous prierez, le Seigneur répondra. Vous lui demanderez, le Seigneur, il vous exaucera. Vous le croyez ça, mes frères et sœurs? C'est écrit. C'est Dieu qui a voulu que ça soit consigné dans sa parole. Ce n'est pas l'apôtre Pierre qui a dit, tiens, il me faudrait écrire un truc. Jacques a écrit, Jean a écrit. Tiens, il me faudrait peut-être écrire aussi moi quelque chose. Non, c'est des choses qui ont été inspirées par Dieu. Parce que Dieu, le premier, veut que nos prières soient exaucées. Il veut que lorsque demain, vous demanderez quelque chose, eh bien, Dieu réponde. C'est ça que Dieu veut. Parce que si vos prières ne sont pas exaucées, vous direz, j'en ai marre de prier, j'en ai assez, et voilà. Et le diable aura gagné, et bien c'est normal. Mais si vous dites, ces choses-là, je vais les méditer, je vais même les apprendre par cœur. Est-ce qu'on pourrait apprendre par cœur ces 3 chapitres? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça ne vaut pas la peine? de méditer ça, saigner les rênes de votre entendement, et bien moi, mes pensées, elles seront captives avec ces chapitres. Et je peux vous dire que si nos pensées sont captives par cet enseignement, laissez-moi vous dire que quand vous prierez, vous le saurez, Dieu vous exaucera. Quand la crainte viendra, vous direz non. Ça a été dit dans l'église. Tu m'as parlé que la femme vertueuse, cette femme à qui je veux ressembler, elle se rit de l'avenir. Eh bien, la crainte, elle vient de la chair, elle vient du diable. N'importe, moi, je veux que la paix vienne de Dieu. Voilà. Dieu l'a dit. Et mes frères et sœurs, quand vous vous mettrez à genoux ou pas, je ne sais pas comment vous priez, c'est pas grave la position physique, c'est pas important. Le jour de la Pentecôte, ils étaient comment? Comment ils étaient le jour de la Pentecôte? Eh bien, on le lit. Vous devriez le savoir. Ah, ils ne le savent pas, ça ne va pas, ça vous mal enseigné, c'est vrai. Acte. Eh, ils ne le savent pas. Alors, acte 2, verset 2. C'est la position physique. Heureusement qu'ils étaient comme ils étaient. Parce que sinon, dans toutes les églises, on adopterait une autre position. Acte 2, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient. Assis. Ils étaient assis. C'est pas important qu'on soit assis, debout, les mains levées, à genoux. Par contre, si on éprouve le besoin de lever les mains ou de se mettre à genoux, vous voyez ce que je veux dire? C'est bien. Ils étaient assis. Et demain matin, que vous soyez à genoux, au pied de votre lit, que vous soyez assis à votre bureau, que vous soyez dans votre canapé, devant votre tasse de thé, ça n'a pas d'importance. Le lieu et la position physique. Ce qui est important, c'est ce qu'on vient de partager. Seigneur, je vais travailler. Vous vous rendez compte? Combien Dieu a été bon, il nous a dit voilà, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors si vous avez été repris, eh bien c'est bien. Ne dites pas, oh non, c'était pour moi, j'en ai pris plein le dos. Eh bien c'est bien. Dis, Seigneur, tu m'as parlé, j'ai de la médisance, je parle mal de certaines situations, je ne respecte pas mon patron. Eh bien Seigneur, je vais prier pour lui. Eh bien Dieu va vous exaucer. J'aime pas les gens. Je suis raciste. Moi, j'ai connu des gens qui me disent qu'ils étaient racistes. Mais ça peut arriver. On va pas leur jeter la pierre. Seigneur, donne-moi d'aimer les étrangers. Est-ce que Dieu peut le faire? Mais bien sûr. C'est ça, être honnête. Je lis ces choses et je me corrige. Oui, Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. C'est ça, la piété. C'est exactement ce qu'on a vu ce soir. C'est des exhortations le plus pratique qui soit. Mais moi, je vous dis, mes frères et sœurs, qu'il ne passera pas beaucoup de temps sans que, comme par hasard, vous observiez que vos prières seront exaucées. Alléluia. Voilà. Dieu ne fait pas de favoritisme, on l'a lu. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de chouchou dans le royaume. Il n'y a pas une espèce d'élite à des gens qui sont exaucés et d'autres qui ne le sont pas. Si nous vivons ces choses, vous viendrez et vous direz, ici à ma place, le Seigneur a exaucé mes prières. Et je crois que ça fera du bien peut-être à des chrétiens qui ont besoin d'entendre votre témoignage. Mais ne laissons pas le diable nous promener. Ne laissons pas le diable nous laisser vivre dans la crainte, dans le doute ou tout ce que vous voulez, ou dans l'inverse de tout ce qu'on vient de lire. Laissons la parole de Dieu envahir notre cœur, mes frères et sœurs. Méditons ces choses afin que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Terminons en rendant grâce à Dieu. S'il vous plaît. Notre Dieu, jamais nous ne te remercierons assez de nous avoir tout enseigné. Et si toi-même, Seigneur Jésus, tu as dit que celui qui lisait devait faire attention, nous voulons faire attention à ce que nous lisons, Seigneur. Et nous te demandons pardon pour toutes les fois où notre lecture a été superficielle. Toutes les fois où notre lecture a été superstitieuse et religieuse. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est vivre ces choses. Oui, obéir à la vérité. Tu savais qui viendrait ce soir dans ta maison. Tu savais comment parler, à qui parler, ou nous redire certaines choses, ou nous les redire pour la dixième fois. Seigneur, nous te remercions de nous rappeler ces choses. Donne-nous cette intelligence. Oui, comme David, a pu le dire le jour où il a été repris, « Tu veux que la vérité soit dans mon cœur ?» Seigneur, c'est notre prière. Nous voulons que ta vérité soit dans notre cœur. Nous voulons ceindre les rênes de notre entendement. Nous voulons que tout notre intellect soit obsédé par ces bénédictions de ta parole, afin, oui, que nos prières soient exaucées et que nous ayons la joie sur la terre d'être utiles pour ton royaume, que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. Amen.